rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, Antoine, Frédéric et moi allons vous présenter successivement l'œuvre d'Étienne Davodeau, des BD, donc ça va des Mauvaises gens au Droit au sol. Ensuite, Pour ce qu'il me plaît de Laure Buisson, puis Poussière dans le vent de Leonardo Padura. Ensuite, Antoine nous parlera de Queno Don Rosa, trois choses que vous ne savez pas sur Picsou et sa canonisation. Frédéric enchaînera avec Armand d'Emmanuel Beauve et moi avec Héritage de Dany Shapiro. Ensuite, nous évoquerons un peu l'œuvre d'Almodovar avec son dernier film Madres Parallèles, mais nous parlerons aussi de ses films antérieurs, Talons Aiguilles, Douleur et Gloire. Et voilà, c'est déjà un programme très riche et donc on va commencer avec Antoine.
Merci beaucoup Anne. Alors comme vous l'avez dit, je vais vous parler d'Étienne Davodeau. Alors je vais commencer par son dernier livre que j'ai lu il y a très peu de temps et qu'on va bientôt avoir à la bibliothèque. Alors je ne sais pas s'il sera à Saint-Corneille ou Morichon. Ça s'appelle Le droit du sol et c'est un peu dans la lignée des livres d'Étienne Davodeau sur à la fois les paysages, la marche, la nature, mais aussi le militantisme. Et Étienne Davodeau, c'est un auteur qui réussit à montrer des militants, des personnes engagées, de manière fine, pas trop lourde. Le droit du sol, ça parle de la terre. Ça parle, en fait, des cavernes, ça parle de ce qu'on met sous la terre. Et en fait, c'est l'histoire d'une marche. Étienne Davodeau raconte sa marche. Il part de la grotte du Pêche-Merle, dans le Lot, et il arrive à pied, donc, à Bure, donc à un site d'enfouissement de déchets nucléaires qui est dans la Meuse. Donc ça fait une sacrée trotte. Et il s'interroge sur la manière dont les peintures rupestres du Pêche-Merle sont arrivées à nous. Elles datent d'environ 24 000 ans. Et évidemment, il fait le lien avec ce qu'on laisse à ceux qui viendront après nous, donc dans les 100 000 prochaines années, c'est-à-dire des déchets nucléaires. Alors vous avez compris que c'est un livre un peu engagé, un peu militant, donc il faut faire un peu la part des choses. Mais c'est Étienne Davodeau, donc il y a toujours beaucoup de tendresse, beaucoup de beauté, il y a des réflexions intéressantes. Et je voulais en profiter pour vous livrer mon top 3 d'Étienne Davodeau. Il a écrit beaucoup de livres ces 20-30 dernières années. Et je trouve qu'il y en a qui sont... Tous se lisent agréablement, mais il y en a quand même qui sont plus forts. Et donc à la troisième place, j'ai Un homme est mort, qui est aussi une histoire de militantisme, mais sur les chantiers du Havre. En deuxième place, Les mauvaises gens, qui est une histoire d'engagement syndical dans une région qui s'appelle les Mauges, que vous connaissez peut-être, qui est entre Angers et Cholet, pas loin de la Vendée. Et puis, en toute première place, Lulu Femme Nue. Vous avez peut-être vu le film avec Karine Viard, mais que vous ayez vu ou pas le film, je vous conseille vraiment de lire ce livre, qui est un livre incroyable sur l'émancipation d'une femme et la situation d'une femme qui se libère de tout ce qui lui pèse. Voilà.
Frédéric, est-ce que tu veux nous parler de Pour qu'il me plaît, Pour ce qu'il me plaît?
Alors, Pour ce qu'il me plaît est une œuvre de Laure Buisson. C'est une jeune auteure née en 1968 dans le Rhône. Son premier roman, Blanquette, en 2002, n'a pas eu les honneurs de la presse, ou presque pas. En 2017, Laure Buisson publie Pour ce qu'il me plaît, dans lequel elle revient sur la vie de Jeanne de Belleville, la première femme pirate de l'histoire. Alors, Jeanne de Belleville est née en 1300. Elle épouse le baron breton Olivier de Clisson. Le roi de France, malheureusement, fait décapiter son mari. Elle arme alors un bateau et part à l'assaut des vaisseaux battant pavillon français. En quelques mois, elle devient la lionne sanglante, honorant la devise des Clisson, Pour ce qu'il me plaît. Alors, j'ai beaucoup aimé la façon dont Laure Buisson ressuscite avec rigueur la vie éminemment romanesque d'une héroïne oubliée de l'histoire de France. Elle nous dépeint un Moyen-Âge loin des clichés, avec une plume sèche et piquante. Passer la surprise de la narration à la seconde personne du singulier, j'ai énormément apprécié cette immersion dans la vie de Jeanne de Belleville, la première femme pirate de l'histoire. La plume de Laure Buisson est un plaisir à lire et nous ramène avec précision dans l'Europe des années 1300, déchirée par l'affrontement entre Français et Anglais autour du territoire breton. Il y a aussi des scènes assez terribles de la grande peste qui arrive à la même époque en Europe. Je vous recommande cette lecture.
Merci Frédéric. Alors moi, je vais vous recommander « Poussière dans le vent » de Leonardo Padura, dont c'est le 13e roman. On est d'abord dans les années 2000 à Miami. Deux jeunes gens de 20 ans se rencontrent, elle c'est Adela. Elle est new-yorkaise d'origine cubaine et venue faire ses études à Miami. Lui, c'est Marcos, il est réfugié cubain. Entre eux, c'est le coup de foudre. Ils vont vite s'installer ensemble. Et Marcos va lui montrer une photo postée sur la page Facebook de sa mère, Clara, prise lors d'une fête d'anniversaire dans les années 90, où on la voit, où on voit les parents de Marcos, donc, avec un groupe d'amis cubains qui se dénommait le Clan. C'est la période qui suit la chute du mur de Berlin et l'Union soviétique a abandonné Cuba, ce qui va avoir des répercussions économiques à Cuba, une crise appelée période glaciale. Or, sur cette photo, Adela reconnaît sa mère, qu'elle connaît sous le nom de Loretta, mais que Marcos lui présente comme Elisa, disparue peu de temps après cette photo, après un drame qui a touché le Clan. Ainsi, qui est Elisa, cette femme fascinante et énigmatique, et pourquoi a-t-elle quitté Cuba ? Adela et Marcus vont chacun de leur côté chercher à comprendre et ils vont enquêter. Et nous, l'auteur va nous plonger à l'époque de cette photo et nous raconter le parcours de tous ses amis qui forment ce clan, des personnages tous attachants et qui se sont soit dispersés, fuyant soit par peur du régime de Castro, soit pour faire une carrière à l'étranger. Et certains sont quand même restés à Cuba, confrontés au manque de tout. Par exemple, les coupures d'électricité qui pouvaient durer des heures, des journées entières, et le manque de nourriture. Le groupe s'est éclaté et chacun était dominé par un grand désenchantement. C'est un roman d'amitié, d'exil, un condensé de vie. C'est un roman choral émouvant qui se lit comme un thriller avec avidité et l'envie de découvrir le mystère qui rôde à chaque page. C'est impressionnant de densité et de maîtrise et en un mot, c'est somptueux. Si vous voulez aller plus loin, le titre Poussière dans le vent fait référence à la magnifique chanson du groupe Kansas, Dust in the Wind, de 1977, qu'un des personnages fredonne. Mais pour notre pause musicale, je vous propose d'écouter une chanteuse originaire de Nancy, Laura Cahen, sur un morceau justement intitulé Poussière, extrait de son dernier album Une fille que nous avons à la bibliothèque Mourichon. Pour l'anecdote, c'est une chanson qui a créé la surprise en étant choisie pour accompagner un épisode de la saison 3 de la série You, diffusée sur Netflix. On écoute.
Les fleurs
Pour commencer cette deuxième partie, je vais vous parler de Kenno Don Rosa. En fait, je vais vous parler de Walt Disney, de Picsou, de Mickey, de plein de choses qui ont l'air du domaine de l'enfance et qui en fait ne le sont plus. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, les éditions Glénat ont fait paraître des compilations de Kenno Don Rosa avec des explications historiques, des interviews des auteurs, de l'auteur principalement, des planches originales, en fait une vraie édition scientifique de l'œuvre de Don Rosa. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment la peine de faire des éditions scientifiques de Mickey ? Et ma réponse, c'est oui. Pourquoi c'est oui ? Parce que je voulais vous parler de trois choses qu'on ne sait pas forcément sur Picsou, Mickey et tout cet univers-là. Et ce qui m'a donné envie de vous en parler, c'est que j'ai fait lire il y a deux semaines à ma mère un des volumes de Kenno Don Rosa et elle m'a dit « mais en fait, elles sont géniales ces histoires. En fait, c'est ça que vous lisiez quand vous étiez petit et on pensait que c'était débile, mais en fait, c'est génial, donne-moi d'autres. » Bon, du coup, là, elle a râlé parce que je ne lui en ai pas donné d'autres, mais promis, je vais le faire. Et en attendant, je me suis dit « tiens, ça serait peut-être bien d'en parler à Radio Graphite. » La première chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, Picsou a peu à voir avec Walt Disney. Walt Disney, il a créé Mickey en 1928, mais Picsou, c'est bien la licence Disney, mais en fait, ça a été créé en 1947 par un monsieur nommé Karl Barks. La deuxième chose, c'est qu'en fait, nous, on a l'impression que tout ça, c'est américain. Oui, Walt Disney, il est américain, oui, c'était licence américaine, il y a bien un lien. Mais en fait, la très grande majorité des histoires de Mickey et Picsou, elles sont produites en Europe. Elles sont faites par des dessinateurs et des scénaristes qui sont très souvent italiens, parfois français, parfois finlandais, et puis bon, un peu quand même américain, puisqu'en fait c'est un américain, un autre américain, donc Kenno Don Rosa, qui a fait une sorte de canonisation, vous savez, c'est un peu comme pour Star Wars, où on a défini à un moment quelles histoires allaient servir de base à la mythologie, et lesquelles on n'allait pas retenir. C'est un peu comme quand on a décidé de garder les quatre évangiles, ou comme quand on a décidé... j'ai pas d'autres exemples. Mais là, en l'occurrence, Kenno Don Rosa, il a commencé à partir de 1986 seulement à faire des histoires de Picsou d'une très très grande qualité. Il a fait des recherches historiques, il a conçu des aventures absolument passionnantes, très inattendues, avec souvent un très très vaste fond historique et culturel. Et puis un style de dessin absolument superbe, très précis, très riche. Et ça a changé beaucoup de choses dans la manière dont ces histoires étaient conçues. Et, sa passion, c'était les histoires de Karl Barks, donc celles des années 1950-60, et pas les autres. Du coup, il a choisi de se baser sur Karl Barks et pas sur le reste. Et il a défini finalement une mythologie cohérente avec des liens entre les différents épisodes, entre les années 50 et les années 80-90. Il a arrêté de faire ses histoires en 2005, mais du coup, il laisse une somme d'histoires absolument incroyables qui peuvent être toujours lues par les enfants. Hein, c'est des excellentes histoires, mais aussi par les adultes. Voilà, donc c'est ma recommandation bande dessinée. Après Étienne Davodeau, ma recommandation plutôt bande dessinée jeunesse, mais à la limite. Et je passe la parole maintenant à Frédéric. Frédéric, vous allez nous parler d'Armand.
Oui, ce livre d'Emmanuel Bove a été réédité en 2007. Donc, quelques mots d'Emmanuel Bove. Il est né en 1898 à Paris d'un père russe et d'une mère luxembourgeoise. En 1921, il épouse Suzanne Valois et s'installe dans la banlieue de Vienne. Il écrit ses premiers livres en Autriche. En 1922, il revient à Paris et vit seul. C'est en 1923 que Colette le remarque en lisant une de ses nouvelles et lui propose de le publier. Il lui apporte alors « Mes amis » dont la publication en 1924 sera un succès. En 1942, il parvient à rejoindre Alger où il écrira ses trois derniers romans. Le piège, départ dans la nuit et non-lieu. Il y évoque notamment la collaboration et les incertitudes de l'époque. De santé fragile, Emmanuel Bove meurt le 13 juillet 1945 à l'âge de 47 ans. Alors Armand... ce jeune homme vit avec Jeanne, une veuve plus âgée que lui, qui l'entretient et l'aime tout en lui laissant beaucoup de liberté. Armand ne travaille pas, il se balade souvent pendant la journée et la soirée et vient rencontrer un ancien ami, Lucien. Celui-ci n'a pas eu la chance d'Armand, il est resté pauvre timide, emprunté dans tous ses gestes et mal à l'aise en société. Mais c'est le témoin d'un passé douloureux pour leur narrateur. À part une incartade d'Armand avec la jeune sœur de Lucien, Marguerite, et une séparation à la fin du roman, il ne se passe rien. Pas d'intrigue, pas d'éclat même dans la séparation. Pas de passion même dans les moments de douceur. Mais c'est une très fine observation psychologique et physique, méticuleuse des faits, un amour du détail poussé à l'extrême, qui apporte un sentiment de malaise et une tension palpable à chaque page. La banalité, la médiocrité, la pauvreté, le malheur tranquille sont omniprésents, mais Boff surpasse cette monotonie en l'érigeant en style d'écriture innovant. Ce qui a fait dire à plusieurs critiques qu'il était un précurseur du nouveau roman. Alors avec ce roman, c'est ce que j'ai apprécié, c'est que ça vient confirmer les dons exceptionnels d'Emmanuel Boff pour la qualité de l'observation psychologique et la finesse avec laquelle il sait débusquer les tensions et les rivalités sous la moindre parole, dans le moindre geste. Chez Boff, même les silences parlent. Tout l'art du romancier est de montrer au lieu de dire.
Voilà. Il avait écrit Mes amis aussi, qui était un roman culte à l'époque et qu'on a à la Bibliothèque Saint-Corneille.
Alors Anne va vous parler d'Héritage à présent.
Oui, merci Frédéric. Donc Héritage, c'est un livre de Dany Shapiro qui a été en 2020 un best-seller aux États-Unis et dont on a peu entendu parler en France. Le récit commence avec un kit ADN. C'est une pratique assez courante aux États-Unis pour faire des tests ADN où l'on apprend beaucoup sur ses origines, mais parfois un peu trop. Car c'est là que l'auteur apprend que son père n'est pas son père biologique. Or, cette femme de 54 ans, née dans une famille juive orthodoxe new-yorkaise très impliquée dans la communauté, adorait son père. Cette nouvelle lui fait l'effet d'un tsunami. Tous les fondements de sa vie sont chamboulés. Après le choc viennent les questionnements. Qui est-elle et qui est son père biologique? Et ses parents décédés, savaient-ils que l'insémination artificielle à laquelle ils avaient procédé avait été conçue par un donneur étranger à la famille? Dès lors, elle mène une enquête. Pour comprendre de qui elle vient, on explore comment les nouvelles technologies permettent de réécrire les récits de vie. Elle rencontre des généticiens, des religieux, et nous le raconte dans des pages très instructives, notamment avec la découverte que la pratique de l'insémination artificielle était fortement contestée dans les années 60, sans cadre juridique ni éthique. Les débats qui avaient lieu à cette époque résonnent d'ailleurs fortement avec les débats d'aujourd'hui sur la PMA. On dévore ce récit autobiographique comme un roman d'aventure, haletant. C'est une quête des origines qui va même plus loin que la génétique et nous amène à réfléchir sur le sens de la famille. Ce parcours va lui ouvrir les yeux sur de nombreux événements de son enfance. Dany Shapiro, en effet, est blonde, aux yeux bleus, alors que toute sa famille est brune. On lui a d'ailleurs souvent fait remarquer qu'elle n'avait pas l'air juive. Elle questionne alors son identité juive et c'est toute la notion d'héritage qu'elle interroge. Et encore, au-delà de ces questionnements passionnants, Héritage est un roman familial intime où elle se livre complètement, elle se met à nu. Et en même temps, c'est une lettre d'amour à son père, bouleversante, à son père décédé, qu'elle tente de ne pas trahir. C'est un roman, une autobiographie, un récit de ce parcours, de cette enquête, et c'est prenant et poignant. Maintenant, nous allons vous parler de cinéma espagnol avec Antoine.
Oui, alors merci Anne. Il se trouve que ce soir, au Ciné-Clep, on passe Talon Aiguille. Alors je ne vais pas vous parler de Talon Aiguille, mais j'avais envie de vous parler de Madres Paralelas, qui est le dernier film de Pedro Almodovar, qui passe au cinéma en ce moment, et qui est un peu en lien d'ailleurs avec ce que vous disiez il y a un instant à propos d'Héritage de Dany Shapiro, puisque c'est l'histoire de deux femmes qui accouchent ensemble dans le même hôpital, et l'une d'elles développe des doutes sur le fait que l'enfant soit bien d'elle. Alors en général, c'est plutôt les hommes qui doutent de ce que l'enfant soit d'eux. Là, en l'occurrence, c'est des femmes.
Et d'ailleurs, son questionnement commence avec la.
Et c'est vrai que c'est l'homme. C'est vrai que c'est, vous avez raison. C'est l'homme qui commence à s'interroger, mais il l'interroge aussi sur est-ce qu'il ressemble à son père à elle et est-ce que vraiment il est d'elle. Et donc. on ne vous raconte pas ce qu'il en est véritablement. Moi, ce que j'ai préféré dans ce film, en fait, finalement, cette histoire de femmes qui s'interrogent et de deux femmes qui ont ces bébés, elle s'insère dans un cadre qui est celui de l'interrogation sur la guerre civile espagnole, sur les fosses communes issues des massacres donc de la guerre d'Espagne autour de 1936-37. Et c'est une dimension que moi, je n'avais jamais vue chez Almodovar, que j'ai trouvée absolument passionnante. Il y a un moment dans la cuisine extrêmement fort où une des deux femmes dit à l'autre... elles ont une discussion sur le fait qu'est-ce que c'est que d'habiter dans un pays, de ne pas vraiment connaître l'histoire du pays, qu'est-ce que c'est que de s'interroger sur ce qui reste justement de l'histoire dramatique du pays à l'époque dans laquelle on vit. Enfin, c'est des moments extrêmement puissants que je n'avais jamais vus chez Almodovar sur ce thème-là. Et en revanche, Almodovar est toujours aussi excellent dans les portraits de femmes libres, audacieuses, et dans les relations mère-fille. Et évidemment, c'est ça qui m'a fait penser à Temps long aiguille. On a un petit parallèle entre la relation d'une des deux femmes avec sa mère et puis la relation de Victoria Abril et de Marisa Paredes dans Temps long aiguille. Je crois que vous aviez trouvé qu'il y avait aussi des liens avec le précédent film d'Almodovar.
Douleur et gloire, j'ai trouvé que Douleur et gloire était un beaucoup plus grand film quand même, beaucoup plus intime, bon, il est introspectif, et il y a toujours un portrait de femme avec sa mère, mais bon, après c'est plus la masculinité qu'on retrouvait d'ailleurs dans Une éducation, mais là j'ai trouvé que c'était un film quand même assez mineur de chez Almodovar. Par rapport à cette justement dichotomie, il a voulu donc parler de la mémoire civile, de la mémoire collective, et en même temps ce portrait et parler de la maternité. Et les deux parties se rejoignent plus ou moins facilement et aisément, je trouve.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ça m'a fait aussi un peu cette impression. Après, pour moi, Almodovar, c'est comme François Ozon. Il faut un deuxième visionnage pour se rendre compte parfois de toute l'ampleur, de toute la subtilité, et de justement de pour voir si c'est vraiment un grand film ou si c'est un film qui est peut-être un peu plus mineur dans la filmographie.
Mais ce qui est époustouflant dans ce film, c'est les couleurs. Il y a énormément de rouge, de vert. C'est vraiment très coloré. Et ça, c'est l'univers d'Almodovar qui est superbe.
Alors même que c'est beaucoup en intérieur.
Ouais.
Non, c'est très juste. Alors, est-ce que je parle maintenant du programme du premier trimestre ?
On va conclure.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, aujourd'hui, on a décidé de vous spoiler un peu. Le programme du début de l'année 2022 n'est pas encore paru, mais on voulait attirer votre attention sur quelques éléments. Le premier de ces éléments, c'est le 22 janvier. Vous savez que mi-janvier, en général, il y a la nuit de la lecture. Et donc, pour la nuit de la lecture, on va faire deux choses. D'abord, on va faire une journée de la lecture autour de Daniel Boulanger. Vous savez que c'est un auteur compiègnois qu'on aime beaucoup, qui a une très, très grande importance dans l'histoire de la littérature française et aussi du cinéma français, des dialogues, des scénarios. Et donc, il se trouve que c'est le centenaire de sa naissance. Il est né à Compiègne le 24 janvier 1922. Et donc, le 22 janvier 2022, on célébrera son centenaire autour d'une journée d'études avec pas mal de lectures, notamment la lecture d'une nouvelle qui s'appelle « La lecture ». Et le soir, on aura en soirée, donc à partir de 20h30, une séance de lecture à voix haute, mais qui sera participative. Vous pouvez venir avec les textes que vous voulez. Le thème sera « L'amour ». C'est un thème qui est à la fois très large et en même temps pas si facile. Mais voilà, vous serez les bienvenus. La deuxième chose, c'est qu'on travaille avec l'association Compiègne-Shirakawa, qui est une association de jumelage, pour vous préparer une exposition sur Compiègne et Shirakawa autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc la destruction, la reconstruction d'un côté et de l'autre de la planète. Et puis, dernière annonce, évidemment, on aura beaucoup d'autres événements, hein, mais dernière annonce, le 12 mars, nous aurons le plaisir de recevoir Thibaut Solano. Thibaut Solano, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « La voix rauque », qui est un livre sur l'affaire Grégory. Alors, je vous entends d'ici, encore un livre sur l'affaire Grégory, ça va, ça suffit. Eh ben non, en fait, La Voix Rauque, c'est un livre absolument passionnant, en fait, sur les années 70-80. C'est-à-dire tout ce qu'il y a avant l'affaire Grégory, donc pas le meurtre, ça c'est une histoire qui est déjà bien connue et rebattue. On parle beaucoup plus de ce que c'est qu'une famille des Vosges, dans différents villages, dans des usines, avec des gens qui se détestent, des gens qui s'aiment, des gens qui boivent, des gens qui passent des coups de fil anonymes et des gens qui assassinent des enfants aussi, du coup. Et voilà. Et donc Thibaut Solano sera avec nous le 12 mars pour parler de tout ça.
C'est un beau programme. Merci Antoine. Et pour finir, comme c'est la dernière émission de l'année, nous avions l'idée de faire un petit tour de table et de demander à chacun quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué, que vous avez préférée cette année. Frédéric ?
Alors, en ce qui me concerne, j'ai préféré Le Grand Jeu de Graham Swift. C'est un auteur que je ne connaissais pas. Et dans Le Grand Jeu, il nous retrace l'histoire de ces trois personnages, Evie, Pablo et Jack. Et il nous dépeint l'univers des stations balnéaires du sud de l'Angleterre dans les années 50 et les premiers spectacles de magie. Et le texte est très beau et l'histoire est assez bouleversante.
Merci Frédéric. Et Antoine ?
Moi, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. On m'en parlait depuis longtemps. J'ai commencé au début de l'année 2021 et je l'ai lu. En fait, j'ai mis du temps à le lire, une bonne partie de l'année, du début de l'année en tout cas. Ça a été un peu difficile parfois, mais c'est vraiment un livre qui a changé ma vie très profondément. C'est un livre unique qui m'a fait prendre conscience de tas de choses. Ouais, vraiment, il a changé ma vie.
Il est inoubliable. Et pour ma part, moi, c'est un tout petit livre, par contre, au contraire du pavé qui est 100 ans de solitude. C'est Impossible, d'Eri de Luca. Alors justement, c'est court, mais très dense. C'est une audition entre un juge d'instruction et un présumé coupable. Et donc, ça va parler de culpabilité, de présomption d'innocence, mais aussi, c'est sur la solitude et sur la montagne, avec des pages magnifiques sur les randonnées en montagne. C'est magistral. Voilà pour ce dernier rendez-vous de l'année. Nous vous retrouvons dans le cloître, le prochain rendez-vous culture, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Et pour janvier, le 21 janvier. Et à la radio, le 28 janvier. Merci à tous et très très bonne fête de fin d'année.